Permettez-moi d'interrompre cet épisode 60 secondes. J'ai un message important pour vous. Atteindre 10 000 euros de revenus mensuels stables et prédictibles, même si vous démarrez de zéro, cela vous semble impossible ? Bonne nouvelle ! Du 30 avril au 5 mai, nous organisons le plus grand événement en ligne francophone de l'année pour les entrepreneurs. Le challenge entrepreneurs.com. 100% gratuit, 5 jours intensifs pour propulser votre business. Chaque jour, vous aurez accès à des sessions live exclusives avec des experts de renom. Ce n'est pas juste un événement en ligne, c'est une chance de faire un vrai changement grâce à des conseils et des méthodes prouvées. C'est une opportunité d'échanger en live avec mon équipe et moi pour faire avancer votre projet. C'est la garantie d'évoluer et de progresser dans un environnement sain et profiter d'une communauté unique. Je vous invite maintenant à réserver votre place. Pour en savoir plus et vous inscrire gratuitement, consultez notre site podcastledeclic.fr ou cliquez sur le lien dans notre bio Instagram. Merci pour votre confiance et maintenant, place à notre épisode du jour.
On aide les entrepreneurs à trouver la pépite d'or, à réussir dans le business. On aide les marques à communiquer. Toutes les marques, tous les annonceurs cherchent la pépite, cherchent à devenir riche. Et c'est vrai que quand t'es un vendeur de paillettes pioche, tu t'enrichis aussi. De temps en temps, t'as une envie, toi aussi, de te mettre à chercher la pépite. Mais souvent, t'es rappelé à l'ordre. Tu te dis non, je fais un métier de service, je reste dans le service. C'est ça qui m'a conduit toutes ces années à monter des agences, à monter des boîtes de service, à rester le vendeur de paillettes pioche, donc être bon dans ce que je fais. Et je me suis enrichi de cette façon-là. J'aurais pu effectivement avoir un déclic et me dire ça y est, je vais monter une boîte, je vais la vendre des milliards parce que je voyais des clients autour de moi qui levaient des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Mais j'ai su rester stable dans ma logique de création d'entreprise, donc de rester le vendeur de palettes pioches. C'était pas facile, mais c'est ce qui me caractérise au quotidien.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Jérémy.
Salut Alec.
Comment tu vas ?
Écoute, super bien, super heureux de pouvoir te parler parce que je te connais, je te suis depuis plusieurs années maintenant et très fier de pouvoir être invité sur ce podcast et pouvoir parler avec toi du déclic.
Bah écoute, figure-toi que c'est moi qui suis vraiment content de t'avoir ici sur le déclic. Je sais que cet épisode va être extrêmement intéressant, extrêmement riche pour te présenter rapidement. Jéréb, ça fait aussi un certain temps qu'on se connaît, on a même été amené à collaborer ensemble sur différents projets, différentes choses, donc j'ai pu voir de l'intérieur aussi le sérieux de ce que vous faites, de votre équipe, de l'infrastructure, et ça fait maintenant plusieurs semaines que j'en parle à toi ou différentes personnes à qui tu travailles, il faut qu'on fasse un épisode ensemble. Ça fait 11-12 ans que tu es entrepreneur, tu as démarré de zéro, tu as revendu une première fois ta boîte il y a 6-7 ans, après tu as créé Splasher, vous avez fait aussi Nelbio qui t'a permis de faire un deuxième exit, un deuxième cash out. Aujourd'hui, c'est une centaine de collaborateurs, 4 boîtes appartiennent à ce groupe, 4 unités commerciales avec Splasher, Sparkle, Blocks, Blinked. C'est une armée de pure players spécialistes qui est entourée, enfin qui entoure tous ces différents projets. On va en parler de ces différents projets. Tu es aussi investisseur, que ce soit dans le monde de la crypto depuis 2017, où tu as créé aussi de belles choses autour du Web3 et de la crypto. Tu as un parcours entrepreneurial assez dingue. L'année dernière, c'est 14 millions de chiffres d'affaires annuels, 500 à 600 clients dans des très gros comptes. On en parlera aussi de comment on va chercher cette typologie de clients ou comment on gère cette typologie de clients. Bref, un épisode vraiment riche qui nous attend et merci encore d'être ici. Je t'ai déjà bien présenté, mais si tu veux également avec tes mots te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, la parole est à toi.
Écoute, merci pour ce beau résumé. Ça fait toujours kiffer de voir le chemin parcouru, parce que quand on est entrepreneur, on a un peu la tête dans le guidon, et je pense que tu le sais aussi. Et c'est vrai que souvent, on se retourne pas souvent en se disant « Ok, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai réalisé ?» Souvent, un entrepreneur regarde les petits problèmes du quotidien, il voit les petits obstacles, les petits obstacles qu'il y a à parcourir. Et souvent, se reculer un petit peu comme ça et de l'écouter d'un autre, c'est souvent gratifiant. Donc, merci d'avoir fait ça. C'est cool. Et du coup, moi, très rapidement, je m'appelle Jérémy Bendayan. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur du web depuis 12 ans maintenant. Et alors, pour raconter un peu ma story, mais histoire de t'expliquer d'où je viens, moi, si tu veux, il faut remonter en fait à l'époque de l'école en fait. Il y a quelques années, pour raconter un peu l'histoire, j'étais en seconde à l'école et j'étais pas un très très bon élève à l'école. Et je me rappelle que je me suis fait virer de l'école privée sous contrat dans laquelle j'étais. Et mon père m'avait pris à cette époque-là énormément de cours de soutien tout le mois de juin, tout le mois de juillet, où en fait je révisais des cours de maths et de physique pour accéder à une nouvelle école. Et un jour en fait, et c'est ça mon déclic, parce qu'on parle du podcast le déclic, mon déclic il est là. Un jour mon père rentre dans la salle de cours de soutien, va voir le prof qui s'appelait Samuel, et il me demande de sortir. Donc moi je sors de la classe, j'écoute par le trou de la porte quand même pour voir un peu ce qu'il se dit, et mon père, je l'entends parler au professeur, et il lui dit dis-moi Samuel, est-ce que Jérémy il est suffisamment intelligent, est-ce qu'il comprend? Bon bah, s'il comprend pas c'est pas grave, il fera un métier avec ses mains, un métier manuel, on peut très bien gagner sa vie en étant plombier, ou voilà, c'est pas grave hein. Et en fait je me suis dit ouais, c'est chaud, en fait mon père il pense que je suis pas assez intelligent pour réussir dans la vie avec un métier cérébral, il pense que j'y arriverai pas, il pense que je suis con, il pense que je suis bête. Et en fait, ça a fait un déclic en moi. Tu vois, moi, je ne viens pas d'un milieu défavorisé où, en fait, tu grandis avec rien autour de toi et donc tu as la rage dès le début. Moi, je viens d'un milieu quand même aisé. Mes parents sont médecins. J'ai grandi super bien, tu vois. Mes parents sont bien occupés de moi, tout le temps bien occupés de moi, même trop. Et du coup, c'est dur de trouver l'énergie et la rage quand tu es dans un environnement méga favorable. Et donc, en fait, le déclic chez moi, il est arrivé quand j'étais à l'école, à ce moment-là, où, en fait, j'ai eu envie de prouver. J'ai eu cette rage, j'ai envie de prouver à mes parents et à mon père d'abord, et puis à ma famille. Et maintenant, aujourd'hui, cette rage, elle m'est restée. J'ai envie de prouver à tout le monde que je peux réussir, que je peux y arriver, que je peux faire de grandes choses. Et c'est ça un peu mon déclic, et c'est là d'où je viens. Voilà un petit peu, si tu me demandais qui je suis, je suis cette personne qui a cette énergie, cette rage depuis toutes ces années. C'est et puis excellent. Après, comme tu l'as dit, j'ai fait des études en sortant de la fac, parce que j'ai quand même été à la fac... j'ai eu plusieurs expériences avant de monter ma première boîte à succès, et on pourra en parler d'ailleurs après, mais pour faire rapide, j'ai monté ma première boîte Advisors il y a un peu plus de 12 ans maintenant. C'était une agence d'achat média, on était spécialisé sur la gestion de campagne Google, Facebook, et je me suis lancé un peu avec l'ambition de vouloir être libre en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime être libre et qui aime être tranquille. Et donc, je voulais être freelance. Je ne me suis jamais dit que j'allais monter une grosse boîte, que j'allais avoir beaucoup d'employés. Franchement, ce n'était pas mon envie principale. Je voulais juste kiffer ma vie, être libre, pouvoir me réveiller à l'heure que je voulais, pouvoir jouer à mes jeux vidéo le soir, me coucher à pas d'heure. J'avais cette volonté-là d'être libre. Et puis, au fur et à mesure, la boîte, je me suis associé avec Franck Carasso, qui est mon associé depuis le début. Et on a monté Advisors. Et puis, le truc a commencé à prendre doucement, doucement. Et puis après, ça a explosé. Et on est monté jusqu'à plus de 25 employés. On a fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires sur cette première boîte. Et on l'a revendu un peu plus de 10 millions d'euros maintenant, il y a à peu près 6 ans. Donc ça, c'était mon premier exit. Et je pourrais te raconter, mais j'ai eu pas mal d'aventures dans cette boîte qui était assez intéressante. Et puis là, plus récemment, il y a à peu près 4 ans, on a remonté une nouvelle boîte qui s'appelle Splasher, qui est une agence spécialisée dans la création de contenu vidéo. Et en fait, on accompagne les marques à créer des contenus vidéo optimisés pour leur campagne média. On fait ça depuis 4 ans maintenant. On est spécialisé sur ce qu'on appelle le snack content. C'est le contenu court optimisé vraiment pour les campagnes d'acquisition. Et on est arrivé sur un marché qui était vraiment vierge en termes de créa vidéo. Il y a 4 ans, les annonceurs avaient peu de choix. Ils passaient par des agences qui leur coûtaient très très cher pour de la création de contenu vidéo. Et nous, on arrivait avec une offre super intéressante niveau prix, hyper qualitative. Et donc, on a convaincu pas mal de très très belles marques à bosser avec nous. Donc ça a été l'aventure Splasher. Et puis la boîte, on l'a fait grossir. Comme elle a grossi très vite, on s'est dit ok, quels sont les relais de croissance, comment on grossit. Et ben on a monté de nouvelles structures, on a même racheté des boîtes. Donc on a racheté Sparkle par exemple, qui est l'agence dont tu parlais tout à l'heure, qui est spécialisée sur TikTok. Ils accompagnent les marques à lancer leur chaîne TikTok et à intégrer la plateforme. On a lancé également Blox, qui est une entité spécialisée en gross marketing Web3. Ça a été monté en interne, c'est un peu de l'entrepreneuriat. Et la dernière boîte, la plus récente, c'est Blinkt, qu'on a racheté il y a un peu plus de 4 mois maintenant, qui est spécialisée sur l'achat média. Donc la gestion de campagne Google, Facebook, un peu comme ce que je faisais au début à Advisors ces quelques années. La boucle est bouclée, maintenant on relance ce métier. Et en fait, l'idée, c'est de construire un groupe qui soit vraiment global, qui bosse en synergie, et de pouvoir accompagner nos clients sur tous les sujets de l'acquisition, d'être un peu le one-stop-shop de l'acquisition digitale pour nos clients, de les aider vraiment à se développer en marketing digital, avec des contenus, avec la médiatisation de ces contenus également. Parce qu'on part du principe qu'il n'y a pas une offre voilà, aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup de choix. Soit tu passes par des pure players qui sont spécialistes, mais du coup, le spécialiste, c'est bien, mais il fait un sujet. Soit tu passes par des très grosses agences type Havas, Publicis, qui font énormément de choses, mais du coup, qui ne peuvent pas faire bien les choses parce qu'elles maîtrisent beaucoup le sujet. Donc nous, on a voulu avoir une logique différente, c'est racheter des expertises, monter des expertises, des pure players, et faire en sorte qu'ils montent une sorte de coalition, comme une sorte de coopérative. On bosse en synergie, bien que chaque entité a la force d'un spécialiste. C'est un peu l'idée et l'ambition du groupe aujourd'hui.
C'est extrêmement intéressant, tant sur ton parcours et ton déclic. Merci pour ce partage, j'en avais pas connaissance. Et franchement, je pense que tu dis « je suis constamment en train de prouver », mais la réalité, c'est que je pense que tu l'as déjà quand même bien prouvé. Mais continue en tout cas sur cette lancée, tu es bien parti. Et puis aussi sur la conception du groupe. Moi, je remarque quelque chose au sein du groupe, justement, c'est que vous êtes vraiment des builders. Vous savez créer des boîtes, structurer des boîtes, construire des boîtes d'une façon sérieuse, solide, de par aussi… Même dans la façon dont vous faites du business, dans la façon dont vous constituez et développez votre réseau, dans la façon aussi dont vous faites de l'acquisition, la typologie de clients que vous arrivez à acquérir. Et l'art de construire une boîte sur 5, 6, 10, 15 ans, faire du chiffre d'affaires, la stabiliser, la processer pour la valoriser et la revendre, c'est quand même un art que peu de gens ont aujourd'hui. Surtout que tu disais au départ, quand tu t'es présenté, je suis un entrepreneur du web depuis plus de 10 ans. C'est drôle parce que pour moi, tu es tout sauf un entrepreneur du web. Pour moi, tu es vraiment un entrepreneur, tout ce qu'il y a de plus concret, du business en dur, mais qui connaît et comprend parfaitement tous les codes du web. Et c'est ce qui fait que tu as l'agilité, la performance et la puissance de croissance et de déploiement des entrepreneurs du web, tout en ayant le socle, la structure, la fondation et les process des business en dur, des vrais business tels qu'ils doivent être conçus pour pouvoir durer dans le temps et être valorisés. D'où est-ce que ça t'est venu? Comment est-ce que t'as, dès le premier coup, finalement, dès justement la première expérience entrepreneuriale, parce que tu disais, tu as créé cette première boîte il y a 11-12 ans, tu démarrais de zéro, c'était une de tes premières, voire ta première expérience entrepreneuriale. Pourtant, quelques années plus tard, ça fait du chiffre d'affaires, c'est bien construit, c'est bien structuré, vous pouvez le valoriser, vous pouvez le revendre, vous faites un bel exit, et puis tu continues derrière. Donc, c'est même pas, on pourrait même pas dire c'est un coup de chance, parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui a été construit, c'est vraiment de la maîtrise.
Yes, écoute, alors merci déjà pour les éloges, c'est énorme que tu me vois comme ça, mais surtout, surtout tu as raison. Alors, je me considère comme entrepreneur du web, mais c'est peut-être entrepreneur nouvelle génération, entre guillemets. Ce que je voulais dire, c'est que souvent, on a la vision des entrepreneurs, enfin de nos parents, tu vois, qui avaient une logique du business qui était beaucoup plus lente, c'est-à-dire qu'ils montaient une activité, ils en faisaient leur métier toute leur vie, hein. Souvent, ils montaient une boîte, c'était la boîte de leur vie où ils étaient salariés toute leur vie dans la même entreprise. Aujourd'hui, le monde, il va très, très vite. Et donc, tu vois, en fait, quand tu me disais avant, Jérémy, aujourd'hui, tu sais monter une boîte et tu sais la lancer, la structurer et t'en lances plusieurs. Et ça, c'est déjà énorme. Mais en fait, j'ai envie de te dire, on n'a pas le choix aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix que de savoir faire ça. Parce que le business, si tu veux, quand je me suis lancé il y a 10 ans, quand j'ai monté ma première agence, tu vois, alors certes, j'étais novice, j'ai appris des choses, mais le marché avançait encore, j'ai l'impression, lentement. Aujourd'hui, les tendances, elles durent 2 ans, 3 ans. Ça va très, très vite. Tu vois, moi, j'ai lancé Splasher il y a 3 ans, le Snack Content Vidéo, j'avais zéro compétiteurs, on vendait des vidéos à 2000 balles. J'étais le seul à faire des formats UGC, donc c'est des formats un peu face caméra, user generated content, des formats un peu nouveaux en acquisition. Aujourd'hui, tu as déjà une centaine de boîtes qui le proposent et en fait, ça s'est démocratisé méga, méga vite, donc je dois pivoter. Et là, je suis en train de faire pivoter mon business, j'ai dû créer de nouvelles expertises et donc en fait, je n'ai pas le choix que d'aller vite. Je n'ai pas le choix que de pivoter, de me remettre tout le temps en question sur mon modèle, sur mon prix, sur ma structure. Et si en fait, en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas comme ça, je me fais bouffer très vite. Donc en fait, si tu veux, comme on n'a pas le choix, on a eu cette agilité. On a eu cette agilité qui fait que on doit tout le temps se remettre en question pour lancer des business, pour pouvoir bien les structurer et les travailler. Et je vais te dire, moi, je préférerais monter un business et que ce business dure 10 ans ou 15 ans. J'aurais aimé que Splasher, ça ne reste qu'une agence vidéo. J'aurais aimé ne pas racheter Blink, j'aurais aimé ne pas monter Blocks. Mais malheureusement, je n'ai pas le choix parce qu'en fait, le marché va tellement vite, mes clients ont tellement de besoins que je suis obligé d'aller vers ces expertises-là. Si je veux garder de la croissance, si je veux faire grossir ma boîte, si je veux avoir une structure intéressante. Et c'est vraiment pas du bullshit. Je te dis, je prends l'exemple de Splasher. Splasher, il y a 4 ans, On était deux. Il y avait nous, The Source, sur de la création de contenu vidéo snack pour les campagnes médias. Aujourd'hui, tu as une centaine d'agences. Donc, ça va très, très vite. Les mecs copient très, très vite. Il y a énormément d'entrepreneurs qui sont d'ailleurs formés régulièrement par d'autres entrepreneurs qui apprennent à monter des business aussi. Donc, l'entrepreneuriat est beaucoup plus libéré qu'il y a quelques années. C'est à la portée de beaucoup plus de monde. Il y a moins de barrières à l'entrée. Et du coup, bah, il faut, nous, en tout cas, se renouveler constamment. Donc, ça, c'est un gros sujet. Après, comment on s'est lancé? Tu me poses la question de comment on s'est lancé il y a quelques années. Moi, c'était vraiment en mode novice. Et je tiens à tirer mon chapeau à mon associé Franck. Parce qu'en fait, si tu veux, on forme une bonne paire. Le mec qui est derrière la partie financière de Splasher, de ce groupe-là, qui est derrière la vente de la première boîte, qui est le monsieur finance, c'est Franck, mon associé, qui lui est quelqu'un beaucoup plus terre-à-terre dans le business, qui a moins la vision du business de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui plaît aux entrepreneurs, qu'est-ce qui plaît aux annonceurs, etc. Lui, il est plus dans la logique de ok, comment on structure une boîte, comment on fait pas de folie, comment on la valorise, qu'est-ce qui est intéressant de valoriser. Tu vois, il est dans cette logique-là, donc de structuration. Et donc, c'est important lorsque tu montes un business de ne pas avoir uniquement la folie de je vais monter une idée, je vais me lancer, ok, ça marche, super, je fais des sous, mais en fait, j'ai pas trop de vision financière. Lui, il amène cette structuration financière à notre binôme. Et donc, déjà, grâce à lui, moi, je me suis amélioré en tant qu'entrepreneur parce que je me suis forcé à regarder des indicateurs qui n'étaient pas naturels pour moi. Tu vois, par exemple, l'EBITDA, qui est le résultat net avant impôt, c'est un indicateur qu'il faut regarder énormément dans une boîte. Le revenu récurrent, est-ce que tu as des contrats récurrents, le MRR, c'est quelque chose qui est énormément regardé, priorisé par rapport au contrat one shot, etc. Donc tout un modèle financier que tu vas structurer, une boîte que tu vas organiser, un modèle que tu vas créer, et donc en fait tout ça c'est quelque chose qui s'est fait avec mon associé. Et donc quand on a monté Advisors il y a quelques années, effectivement on a monté avec, au départ, une logique de on monte une agence, on est complètement novice, et puis Franck a amené cette touche plutôt de « Ok, on va bien la structurer, on va bien la valoriser pour d'ailleurs pouvoir potentiellement la revendre. » C'était un peu l'idée dès le départ. Et je pense qu'il a été visionnaire sur ce côté-là.
Ouais, c'est super intéressant justement cette complémentarité. C'est un pattern que l'on voit chez beaucoup justement d'entrepreneurs et d'entreprises à succès où ça ne se fait pas seul, et tu fais bien de mettre en lumière aussi justement ton associé. Chose que moi, je fais souvent également parce qu'on est aussi deux sur la plupart des structures, et c'est ce qui a fait le succès et la croissance notamment d'entrepreneurs.com, de Le Consultant aussi à ses débuts, et même de mon personal brand. Donc super intéressant de le mentionner pour celles et ceux qui nous écoutent. Un autre point, c'est tu as utilisé le mot visionnaire. Vous êtes aussi visionnaire sur différents sujets, notamment sur votre capacité, j'ai l'impression, à identifier les tendances, à voir aussi quand il faut commencer à pivoter, tu as utilisé ce terme. Comment prendre les tendances? Parce qu'il y a de ça 12 ans, tu crées une agence Google Ads. À ce moment-là, ce n'est pas du tout une évidence. Aujourd'hui, tu te dirais, mais c'est has-been, agence Google Ads. Ou en tout cas, il faut l'aborder différemment parce qu'il y a tellement justement d'offres sur le marché qu'il faut vraiment se différencier, soit être spécifique, soit être surperformant, soit taper un angle différent. Et là, tu arrives à créer quelque chose d'innovant. Il y a 5 ans, le snack content, les vidéos courtes. Aujourd'hui, tout le monde consomme des vidéos courtes. C'est ce qui a fait exploser TikTok, c'est ce qui a fait exploser de nombreuses plateformes. Et même de nouveaux influenceurs de toutes pièces ont été créés uniquement grâce aux vidéos courtes. Tu parlais aussi d'UGC, où tu as été l'un des précurseurs, et aujourd'hui, des centaines d'agences le proposent. Blox, je vous ai vu à l'œuvre, je vous ai vu émerger de zéro. On a même pu collaborer ensemble à plusieurs reprises. Vous avez tout cartonné et vous étiez parmi les premiers à réussir justement à prendre une place. Et là, attention, ça pourrait être perçu comme quelqu'un qui vous fait des éloges et qui vous fait des éloges, mais pourtant, je suis que factuel dans mes propos. Comment est-ce que vous faites pour à chaque fois réussir à anticiper des tendances, comprendre le marché, voir quand il est temps d'y aller, voir quand il est temps de pivoter? Est-ce qu'il y a une méthodologie interne, une méthode Splasher interne qui fait que justement vous avez cette capacité alors que beaucoup ne l'ont pas ou alors trop tard? Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
Yes, bah écoute, en fait, si tu veux, pour te répondre sur ça, là où Franck est le côté financier, moi, je suis côté produit-marché. C'est-à-dire que moi, ma passion, c'est le marketing digital. Et donc, le marketing, la communication, le business, entreprendre et faire ce que je fais, c'est ma passion. Et si tu veux, dans ce marché-là, comme je suis passionné, je suis très, très curieux. Et donc, je mets les mains dans le cambouis. Pour donner un exemple, quand il y a quelques années, on a lancé une agence Google Ads, j'ai moi-même fait mes premières campagnes à l'époque. J'avais monté un site e-commerce où je vendais des coffrets végétaliens pour les fêtes de Noël. J'ai monté un site e-commerce, j'ai lancé mes premières campagnes Google Ads, j'ai testé par moi-même. J'avais envie de coder le site, de commercialiser des produits, de vendre. Ça m'a coûté 5-6 000 euros de perte parce que le truc n'était pas rentable. J'ai vendu 70 coffrets, mais j'ai appris. Donc en fait, moi, je suis quelqu'un qui met les mains dans le cambouis, donc qui comprend les choses vraiment dans la profondeur parce que je suis passionné par ça. Et donc, si tu veux, je vois ce qui se passe. Je suis sur le terrain. Je ne suis pas qu'un stratège en mode je monte une boîte et je suis là-haut sur mon piédestal à être loin et à ne pas regarder ce qui se passe opérationnellement. Moi, je suis dans l'opérationnel. Et je veux rester dans l'opérationnel parce que je vois tout ce qui se passe. Autre exemple, quand le confinement est arrivé, tu vois, TikTok se lance. Moi, je vois ce truc, je dis c'est quoi ce délire ? Il y avait 1 million de users, je crois, à l'époque, quand je me suis lancé aux 2 millions en France. C'était le tout début. Bon, moi, j'ai créé un compte. Et puis, j'ai tabassé la plateforme et je suis monté à 200 000 abonnés. J'ai même conseillé à mon père d'aller sur TikTok, il est médecin, et il a maintenant 800 000 abonnés. Donc, on est arrivé très, très vite, donc on met les mains dans le cambouis. Et donc, si tu veux, c'est même pas une logique de visionnaire, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui est nouveau sur le marché, je m'y intéresse. Et je vais pouvoir me mettre des heures dessus, travailler des heures. Alors, c'est même pas travailler parce que moi, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de travailler, je m'amuse. Et en fait, donc aujourd'hui, entre guillemets, personne, je pense que, et c'est pas de la prétention, c'est que je pense que personne ne peut avoir mon niveau dans ce que je fais, parce que je suis tellement à fond que je peux des fois passer jusqu'à 4 heures du matin à regarder une nouvelle techno. Par exemple, quand le Bitcoin, la crypto a commencé à se démocratiser en 2017, le Bitcoin était à $400, je m'y suis intéressé, j'ai mis mon nez dedans, j'ai commencé à analyser les ICO, puis après le marché des NFT, j'ai pas lâché, j'ai même monté, pour te dire, un média qui s'appelle Coin Tribune en 2020, qui était spécialisé sur le Web3, pour vraiment mettre le nez dans le cambouis, pour vraiment rentrer dans l'écosystème, pour rencontrer les gens, pour investir dans les projets. Donc en fait, si tu veux, aujourd'hui, moi, quand il y a une nouveauté qui arrive, je me mets à fond dedans, et c'est en ça qu'on a l'impression que je vois le futur, mais en réalité, non. C'est juste que je suis au contact du marché. Et je pense que le jour où je ne serai pas dans le futur et je ne verrai pas la nouveauté, c'est le jour où j'aurai plus autant de force. Et je vais te donner un exemple. Tu vois, je me suis marié, j'ai 2 enfants maintenant. Je ne peux plus mettre autant d'énergie qu'avant dans les nouvelles technologies. Là, par exemple, si tous les soirs, je pouvais travailler jusqu'à pas d'heure parce que je n'avais pas d'enfants, je n'étais pas marié, j'avais que ça à faire, j'aurais mis mon nez dans les IA. Dans Runway, j'ai vu hier Runway, tu peux transformer du texte en vidéo, tu peux faire des trucs de fou dans Midjourney, dans ChatGPT. Tu peux tellement transformer des business ou créer des business avec ces nouvelles technos et défoncer la concurrence que j'aurais passé des milliers d'heures dessus. Des milliers d'heures. Je serais devenu un expert, personne n'aurait pu me tester et à la fin j'aurais monté un business grâce à ça. Donc ce n'est pas une question de logique de futur, c'est juste que je mets mes mains dans le cambouis, j'y vais parce que je suis passionné. Et je pense que le jour, et ce n'est pas encore arrivé, où je perdrai cette passion-là, à ce moment-là, il y aura des gens qui me dépasseront et qui seront plus visionnaires. Et moi, je perdrai justement ce sixième sens que j'ai de pouvoir déceler un truc et de pouvoir me lancer. Tu vois, et des fois, je me trompe. Hein, tu vois, des fois, je me mets dans des tendances, des trucs qui marcheront jamais. Mais en fait, au moins, j'ai essayé, j'ai compris. Tu vois, je m'y suis mis très tôt. Par exemple, Biril, qui est un réseau social français. Bon, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé à m'y mettre. J'ai commencé à publier du contenu. Je m'y suis intéressé, j'ai senti qu'il n'y avait pas trop d'opportunités business sur toute la partie gestion ads et que c'était trop tôt. Bon, je m'y suis désintéressé, tu vois. Donc, il y a des fois où j'essaye de ne pas rester bloqué sur un sujet parce que je sens que ça me fera perdre du temps. Mais en tout cas, je suis curieux, donc je n'ai pas de sixième sens, c'est juste que je mets les mains dans le cambouis. Et ce que je conseille à tout entrepreneur qui se lance, c'est la première qualité qu'il faut avoir, c'est d'être passionné. C'est-à-dire d'être passionné parce que quand tu es passionné, tu n'as pas l'impression de travailler. Donc tu ne comptes pas tes heures, donc personne ne peut te tester, personne ne peut te battre parce que tu travailles mille fois plus que les autres ou deux fois plus que les autres. Moi, quand je me couche à 4 heures du matin et que je me lève à 7 heures pour déposer mes gosses à l'école, bon, qui dort 3 heures par nuit par semaine ? Pas beaucoup de monde. Donc je travaille beaucoup plus que la moyenne des gens. Mais en fait, je n'ai pas l'impression de bosser, je m'amuse. Donc je j'ai pas l'impression de faire un truc qui me fait chier. J'ai l'impression de m'éclater et je suis méga curieux. Et donc c'est en ça que, si tu veux, j'ai ce super pouvoir de pouvoir trouver ce qui va marcher, trouver ce qui va fonctionner et de pouvoir en faire une opportunité business pour ma boîte. Pour te donner un exemple encore concret de ce que je suis en train de faire en ce moment, là je me suis rendu compte d'une technologie, il y a une technologie qui vient de sortir, une technologie d'une boîte ukrainienne qui s'appelle DeepCake. C'est une boîte qui prend une vidéo que tu as faite en français, donc une vidéo tournée avec des comédiens que tu fais en français. Lui, il va te changer les visages des comédiens, il va mettre des visages créés par IA, mais attention, c'est super bien fait. Et il va te les traduire dans des langues avec une IA qui va garder le ton de ta voix, mais qui va changer le langage. T'as pas l'impression, t'as l'impression que ça a été tourné. C'est une technologie de deepfake, ça s'appelle deepcake.io. Et en fait, c'est une technologie qui va révolutionner mon business parce que demain, je vais pouvoir aider mes clients à scaler à l'international à moindre coût. Au lieu de leur vendre une vidéo de 2000 balles parce que, si tu veux, je vais retourner en anglais avec un anglophone, non. Bah, demain, je vais passer par une solution comme ça. Alors certes, je vais piloter le projet, mais je vais passer par une IA qui va me permettre de gagner énormément de temps et donc de facturer moins cher à mon client. Et versus un de mes concurrents qui, lui, n'est pas au courant, qui, lui, n'est pas passionné, qui, lui, est resté un peu has-been parce qu'il vend des vidéos toujours depuis des années avec 20 000 balles, il va se faire disrupter par des acteurs comme moi ou comme d'autres qui sont encore plus fous. T'as des jeunes, je vois des jeunes sur LinkedIn qui ont 16 piges, qui sont encore mordus d'IA et qui vont loin. Donc, ils sont encore plus curieux que moi parce qu'ils ont encore plus de temps. Ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants encore. Donc, je pense que la vraie qualité d'un entrepreneur, c'est d'être curieux. Et c'est ce qui te permet d'avoir un temps d'avance sur les autres, c'est-à-dire de ne pas compter tes heures.
Ouais, complètement. Tu réponds également à ma question à l'égard de votre rapidité d'exécution et votre agilité dans ce que vous faites. Avant de te poser quelques questions super intéressantes, tant sur ton entourage, la façon dont vous structurez vos boîtes, tant sur ta maîtrise des réseaux sociaux et comment tu craques justement les réseaux. Je vois que là, depuis mars, sauf erreur, tu es revenu sur LinkedIn. C'est incroyable les stats que tu arrives à sortir, tes différents projets, tes investissements, le modèle agence, on va en parler tout de suite. C'est quoi ta journée type, c'est quoi ton quotidien? Parce qu'on comprend du coup que tu es passionné, que par conséquent tu bosses énormément, malgré le fait que tu as aussi des obligations familiales, personnelles, et j'imagine du coup tu as un équilibre. Enfin, moi je vois, même quand je suis venu sur Paris, on a pu aussi se voir, se faire un paddle par exemple, donc tu as aussi du temps pour tes activités, tes amis, etc. Mais c'est quoi ta journée type en général? Comment tu gères ton temps?
Écoute, je le gère très très mal. C'est-à-dire que je suis très mauvais en gestion. J'utilise un outil qui s'appelle Google Agenda, qui est l'outil de ma vie, qui me permet de tout noter, que je mange chez un ami, que j'aille à un rendez-vous client, tout qui est noté. Donc en fait, je cadre ma vie un petit peu comme ça, sur cet outil, qui permet de m'organiser un minimum et de fixer mes rendez-vous. Mais globalement, je ne suis pas quelqu'un qui va être hyper, hyper processé, hyper organisé, qui va me dire, tiens, tu prends ce temps pour faire du contenu sur TikTok, tiens, tu prends ci. Je fais vraiment à l'instinct. Parce que je suis passionné et que justement, je ne veux pas rajouter de lourdeur à mon actif, je veux m'amuser, tu vois, dans ce que je fais. Et donc, pour garder cette simplicité, cet amusement et être toujours bon, il ne faut pas que je processe trop le truc. Sinon, mes posts, ils ne seraient pas aussi sympas sur LinkedIn. Sinon, mes posts, ils ne seraient pas aussi sympas sur TikTok ou sur les canaux sur lesquels je communique parce que je deviendrais, si tu veux, trop chiant, trop processé, ça se verrait. Ce serait trop commercial, ce serait trop forcé. Moi, tout ce que je fais, je le fais avec passion et avec amusement. Donc, je suis très mal organisé. J'ai une chose que j'essaye de maximiser, c'est le bonheur de ma femme et de mes enfants. Donc, je sais que ça passe en priorité. Et ça, ça veut dire que le soir, logiquement, tu vois, de 18h30, 19h à 22h, 23h, je sais que je suis avec ma femme et mes enfants la semaine. Et donc, je ne me mets pas de dîner, par exemple, client, ce que je faisais avant, le soir. Moi, je fais petit-déj, déjeuner, il n'y a pas de problème. Mais dîner, je ne mets pas ou rarement. J'ai aussi un truc important, c'est que le week-end, vendredi, samedi, dimanche, je suis en famille. Ça ne veut pas dire que je vais pas travailler. Je vais travailler. Mais je vais travailler à des moments où je ne suis pas avec ma femme, où mes gosses font une sieste, ou le matin très tôt parce que ma femme fait la grasse mat le dimanche. Tu vois. Donc, j'ai mes moments comme ça où je peux allouer du temps à mon activité. Et bien évidemment au sport parce que j'adore le paddle. C'est un sport qui est devenu passion Puis quelques temps avant, j'étais fan de foot depuis plus jeune. Mais donc, j'alloue aussi du temps au sport. Donc, c'est de maximiser ça. C'est sûr qu'il y a des choses que je fais mal dans la vie. Tu vois, il y a des fois des potes qui me disent « ça fait longtemps que je t'ai pas vu, j'aimerais te voir et tout ». Mais on peut pas tout faire, on peut pas tout bien faire parce que le temps est limité. Et malheureusement, même si je dors très peu, voilà, j'ai un temps limité. Je suis pas un surhumain, un surhomme. J'ai juste cette logique-là de vouloir maximiser quand même le plaisir de mes proches parce que c'est ce qui est pour moi le plus important aujourd'hui.
Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant aussi de voir que justement au fur et à mesure des années, y a une évolution de ce paradigme et de cette perception de la gestion de son temps, de l'équilibre qu'on veut et du fait aussi d'être quand même organisé. Parce que finalement, tu démarres, tu dis « je suis pas organisé », mais tu dis aussi qu'une de tes priorités, c'est ta femme et tes enfants. Et du coup, pour eux, vu que c'est ta priorité, tu es très organisé, tu as des créneaux libres et tu sais que ces créneaux, c'est non négociable, que ce soit de telle heure à telle heure ou le week-end, t'es là pour eux, etc. Et c'est important. Donc, on voit que, en fait, on est toujours organisé. Ça dépend que d'une chose, ses priorités. J'ai une autre question aussi, c'est qu'aujourd'hui, si tu peux faire tout ça, que ce soit au niveau de tes collaborateurs, que ce soit au niveau de tes boîtes, que ce soit au niveau des chiffres, au niveau des scores, on en parlera aussi, la typologie de clients que vous avez. Vous avez autant des business traditionnels que des grands groupes, que des grandes marques. Il faut pouvoir être au top, il faut pouvoir délivrer. Pour pouvoir faire tout ça, il faut être entouré, il faut avoir une équipe vraiment solide autour de soi. Moi, j'ai pu déjà travailler avec vous, j'ai pu aussi échanger avec différents de tes partenaires, associés. J'ai vu la qualité de ce que vous faites et de la façon dont vous travaillez. Comment on fait d'expérience, ça c'est une question que beaucoup de gens se posent qui nous écoutent, pour pouvoir être entouré de personnes qui ont les compétences, qui ont la même vision et en qui on peut avoir confiance. Parce que avoir une de ces trois variables, ça se fait, mais avoir les trois, c'est quand même bien plus complexe. Donc, les compétences, la confiance et aussi justement voilà, cette capacité à aller chercher ensemble cette même vision.
Yes, écoute, sur les compétences, moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est l'élément le plus important parce que souvent sur un CV, tu ne peux pas avoir les compétences et c'est ce qui nous importe le plus en tant qu'entrepreneur. Est-ce qu'il a les compétences pour arriver à travailler chez nous? Est-ce qu'il a les compétences pour être bon, pour être le meilleur? Moi déjà, si tu veux, je fonctionne beaucoup au feeling et j'essaye de déceler les opportunités. Par exemple, aujourd'hui sur LinkedIn, des fois ça m'arrive, ou même sur TikTok, de tomber sur des profils excellents. Il y a quelques années, sur LinkedIn, il y a une nana qui s'appelle Diane Benamou, qui travaille chez moi aujourd'hui, qui est d'ailleurs mon associée, que j'ai associée sur Splasher, qui a fait une vidéo LinkedIn où elle a fait des millions de vues, où elle faisait un CV vidéo. Mais son CV, il était excellent. Elle a eu énormément de reach. Elle a eu 200 meetings pour être recrutée dans des boîtes, dans des super boîtes. Et moi, j'étais un de ces 200 rendez-vous. Et je me suis battu corps et âme pour l'avoir. C'est-à-dire, j'ai mis toute mon énergie pour l'avoir. Et finalement, aujourd'hui, elle est chez moi. Elle est associée. C'est une tueuse sur les réseaux. Et en fait, si tu veux, des fois, en fait, les compétences, elles sont autour de toi. Il y a des gens qui créent du contenu. Il y a des gens qui font. Et moi, j'aime bien les gens qui font, qui mettent les mains dans le cambouis un peu comme moi. Et donc, les compétences, je vais les chercher sur le terrain. C'est-à-dire, je me rends compte de gens qui sont extraordinaires sur le terrain. Et je me dis qu'il y a un truc à faire avec eux. Et donc, il y a Diane, mais il y en a d'autres. Tu vois, il y a des fois, ça m'arrive de collaborer avec un partenaire. Et puis, je me dis, putain, il a une super boîte. Ce serait intéressant qu'on fasse un rapprochement et que peut-être qu'on fusionne. Tu vois, et donc, c'est ce qui s'est passé avec Blinked, qui était un mec qui était un concurrent à moi à l'époque. On a sympathisé, on est devenu copains. Je l'ai trouvé très, très smart. J'ai gardé contact avec lui. Et puis, quand j'ai monté Splasher et qu'il y avait des synergies possibles, je me suis dit, bon, j'ai envie de m'associer avec ce mec. C'est un mec très intelligent. Donc, les compétences, tu vas les chercher sur le terrain. Tu vas les chercher avec les rencontres. Et puis, tu discutes et tu fais avec les gens. Soit tu collabores avec eux, soit ça devient tes clients, tes partenaires, tes prestataires. Voilà. Et en fait, les bons, tu les décèles tout de suite. Donc, les compétences, moi, pour moi, elles se décèlent sur le terrain. Après, bien évidemment, des fois, on se trompe. Hein. On n'est pas magicien. Des fois, ça arrive de recruter quelqu'un et puis c'est pas bon et puis c'est pas grave. Mais voilà. En tout cas, c'est sur la partie compétences, c'est un peu comme ça que je fais. Sur la partie vision, c'est le numéro 3. J'ai oublié le numéro 2, mais tu me le rediras. Confiance. Alors, sur la partie confiance, écoute, la confiance, c'est dur de connaître en amont. Moi, ce que j'essaye de faire quand même, c'est d'avoir des gens qui viennent chez moi qui sont recommandés. Moi, souvent, j'accepte énormément de gens en alternance ou en stage qui démarrent, de gens qu'on me recommande. Et ces personnes-là deviennent souvent des seniors chez moi. Et ils restent 5 ans, 6 ans et j'ai des très bons contacts avec eux. Si tu savais le nombre de gens que j'ai recrutés en senior, en stage, en alternance qui sont dans mes boîtes aujourd'hui et qui après restent chez moi, c'est un kiff. Et ça, tu sais, il y a des gens qui des fois ils me disent, tu peux me rendre un service, j'ai mon petit cousin ou mon petit neveu, il est super, il cherche un stage, il est super bon et tout. Mais en fait, c'est lui qui me rend service. Parce que la personne qui m'envoie le contact, c'est quelqu'un que je connais, qui est une super bonne famille, qui a un bon mindset, qui a un bon état d'esprit. Je sais qu'il va m'envoyer quelqu'un d'intéressant parce que voilà, il ne veut pas m'envoyer de la merde, et il me recommande quelqu'un. Donc c'est génial. Et souvent, c'est eux qui s'excusent, alors c'est moi qui devrais les remercier de m'envoyer ce contact-là. Et c'est comme ça que j'ai recruté. Donc la confiance, c'est grâce au réseau, en fait. C'est plus tu. Plus, en fait, c'est ce que tu construis avec ton réseau. Et moi, j'essaye souvent de recruter des gens de mon réseau. C'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, même quand c'est pas le cas et que je connais pas la personne que je recrute, souvent j'essaie d'appeler mon réseau pour savoir s'ils la connaissent. Exemple, une personne qui postule chez moi, j'appelle 2-3 boîtes dans lesquelles elle a bossé, dont je connais les patrons ou je connais les fondateurs parce que j'ai un réseau, etc. Et puis finalement, je me rends compte qu'elle est bien ou qu'elle n'est pas bien. Et donc, je marche beaucoup à la confiance au réseau. Et le numéro 3, c'était la vision. Pour moi, la vision, tu as des gens qui ont une vision extraordinaire et souvent, de temps en temps, bah, j'ai envie de m'associer avec ces personnes-là. Mais j'ai envie de te dire, il n'y en a pas 50. C'est-à-dire que des gens qui ont une vision et qui ont les cojones de la porter jusqu'au bout et de monter un business, eux, souvent, c'est mes concurrents. C'est-à-dire que c'est des entrepreneurs qui ont leur vision, qui ont leur truc. Moi, souvent, les gens que je recrute, alors, il y en a qui ont une bonne vision, bien évidemment, mais ils n'ont pas cette vision, tu vois, en mode je vais changer le monde, je vais faire un truc de fou, j'ai ça, je vais tester. Ils ont plutôt une vision de se dire bon, ok, bon, Jérémy, tu vois, c'est un peu moi qui porte la vision de la boîte. Et si tu veux, ils vont embrasser un peu ma vision. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Ils vont embrasser un peu ma vision et on va construire, la co-construire ensemble, on va la challenger. Il la challenge, il me challenge. Et moi, mon rôle, si tu veux, dans le groupe, c'est quand même d'amener cette vision. Donc, j'ai toujours été un peu ce monsieur en mode ok, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le produit? Comment on le lance? Qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours été mon rôle dans la boîte. Et souvent, ceux qui avaient une vision où j'arrivais à me dire ok, c'est pas mal ce qu'il a fait, c'était mes concurrents ou des mecs que j'arrivais à analyser sur le marché. Mais c'est rare qu'un mec qui ait une vision exceptionnelle que je trouve sur le marché, il n'ait pas déjà monté sa boîte et qu'il ait envie de s'associer avec moi. Souvent, c'est des mecs qui ont déjà leur activité et qui sont déjà lancés.
Ouais, complètement, c'est des bons éléments de réponse, merci pour ça. Un autre point également, tu parles beaucoup de réseau. C'est vrai que le réseau, moi tu prêches un convaincu, c'est une de mes forces, c'est quelque chose que j'utilise, c'est quelque chose que je prône, c'est même quelque chose que j'ai conscience de sa puissance, donc je mets en place constamment des actions pour permettre à celles et ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui me suivent sur les réseaux, de pouvoir eux aussi construire un réseau, que ce soit à Dubaï avec des petits apéros ou des restos, des réunions, des mises en relation constantes, ou même lorsque je viens en Europe avec des séminaires ou des networking, des networking et des choses comme ça. Donc là-dessus, tu prêches un convaincu, toi, d'expérience, parce que je sais que ton réseau, c'est une force. Je sais que tu fais partie de ces rares personnes où si un jour j'ai besoin d'une ressource, d'un contact, de quelque chose que je n'ai pas forcément dans mon WhatsApp, j'écris à Jérém. T'as sûrement la solution ou tu connais un type qui a la solution et la bonne. Comment on fait pour développer un réseau? Parce que toi, tu as les deux axes. Tu as d'une part le réseau où tu peux avoir des ressources, tant internes qu'externes, mais tu as aussi le réseau où tu peux avoir des clients, des gros clients, des clients qu'on acquiert souvent justement uniquement grâce au réseau ou en grande partie grâce au réseau. Donc, j'imagine que ça a été un vrai game changer d'une part et un vrai champ de réflexion, une vraie maîtrise. Est-ce que tu as des insights à nous partager pour ceux qui nous écoutent?
Bien sûr, écoute, le réseau pour moi c'est énorme, c'est une grosse part du business et je vais donner plein d'exemples. Le premier exemple, c'est que ma première boîte Splasher, j'ai mis 5 ans avant d'atteindre, voire même 6 ans avant d'atteindre 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors que Splasher en 3 ans on faisait 14 millions. La différence, c'est le réseau. Ce n'est pas que l'expérience de l'entrepreneur. C'est qu'en fait, entre la boîte 1 et la boîte 2, il y avait quand même 7-8 ans d'entrepreneuriat avec des gens rencontrés extraordinaires et donc du chiffre d'affaires généré beaucoup plus rapidement. Donc déjà, rien que ça, la preuve par la réalisation, c'est vraiment, on a... Enfin, le réseau, en termes de chiffres, déjà, c'est extraordinaire et c'est un énorme booster, mais pas que. Ça te résout beaucoup de problèmes, ça t'aide dans ta réflexion, ça peut t'amener vraiment énormément de solutions. Pour donner aussi une vision plus opérationnelle, nous, quand on a monté la première boîte Advisors, au début, on n'avait pas de clients. Et alors, on s'est dit, OK, comment on fait pour avoir des clients? On s'est dit, le réseau, c'était la première option, c'est ce qui nous coûtait le moins cher. Alors, le réseau, c'était quoi à l'époque? Le réseau, c'était papa-maman. Et papa-maman, ils avaient des copains. et les copains de papa-maman, ils avaient des boîtes. Et donc, le réseau, c'était ça. Et en fait, au lieu de se dire, j'ai pas de réseau, non, on a tous un réseau. On a tous un copain avec qui on a fait l'école qui a réussi. On a tous un père qui a un comptant, qui a un copain qui bosse, ceci et ça. En fait, on a tous une opportunité qui s'ouvre à nous, même des fois, si on vient des milieux défavorisés, il y a toujours le cousin, le beau-frère, il y a tout le temps un truc. Et en fait, si tu veux, le réseau, c'est ce qui te permet, le réseau familial, c'est ce qui te permet de démarrer. Nous, c'est comme ça qu'on a démarré et on a commencé, grâce au réseau familial, à générer 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est pas rien, sans effort. Donc, c'était pour ma première boîte. Puis après, on s'est dit, OK, bon, maintenant, c'est bloqué. À un moment donné, on atteint une limite. Donc, c'est sûr que les clients qu'on avait, ils allaient nous recommander si on fait bien notre travail, mais ça prend du temps. Comment on fait pour booster ? Et à l'époque, on s'est dit, bon, on va construire notre propre réseau. Et alors, quand tu construis ton réseau, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas chercher les gens qui galèrent comme toi. Nous, à l'époque, on s'était dit, OK, nous, on galère à choper des clients. Qui est-ce qui galère comme nous à choper des clients ? D'autres agences qui démarrent. OK, on va pas aller voir nos concurrents. Donc, on a été regarder des agences qui faisaient un métier qui n'était pas le même que le nôtre. Exemple, on a été voir des agences de création de sites web ou des agences de référencement naturel qui venaient de se lancer. Et on a fait connaissance avec les entrepreneurs. Ils étaient dans la même logique que nous. Ils sortaient d'AFA, qui venaient de lancer leur business. Ils avaient eux aussi 10 000 euros de chiffre. Mais bon, quand tu avais 4-5 partenaires qui faisaient chacun 10 000 euros de chiffre, ça fait tout de suite 50-60 000 euros de volume en tout. Et donc, du coup, ça t'amène des nouveaux clients, des nouvelles touches. Et donc, on se renvoyait du business entre gens qui galèrent. Tiens, toi, tu fais ça, on peut bosser en synergie. Donc, on faisait des partenariats, stratégie de partenariat d'affaires qui marche très bien. Et on s'est créé le réseau comme ça. Et après, si tu veux, on a fait aussi un autre booster qui a été un élément important. C'est on a, au bout de 2 ans d'activité, on a sponsorisé un événement qui s'appelle les Big Boss du e-commerce. C'est un gros événement du digital. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on a été très rapidement, on a fait la 2e édition. C'est un gros événement où tu rencontres des décideurs du digital pendant un week-end. Tu passes un week-end avec eux à la mer ou à la montagne et on va créer du réseau, du lien avec eux. On va les rencontrer, on va parler business, mais on va surtout créer du lien et s'amuser. Et donc, en fait, ça a été un énorme booster et ça nous a permis de créer notre réseau digital, cet événement. Et on l'a fait, c'est une sorte de salon un peu plus interactif, mais on l'a fait très, très tôt dans notre activité. C'est-à-dire que la boîte n'avait même pas 1 an et demi, je crois. Et on a tout de suite pris le risque de participer à un événement parce que l'événement démarrait. Parce qu'il y avait une opportunité de prix où ça ne coûtait pas encore trop cher. Et donc, on a saisi l'opportunité de créer notre réseau comme ça. Voilà, donc ça a été aussi un très, très gros booster qui nous a permis de connaître du monde. Et bien évidemment, quand tu sers bien tes clients, tes clients te recommandent et c'est ton réseau proche. Donc, bien chouchouter ses clients, c'est aussi son réseau. Tu vois, ça, c'est un point important. Et puis après, la dernière étape, c'est les réseaux sociaux qui, eux, te permettent de créer du réseau aussi. Et donc, moi, j'ai commencé à publier sur LinkedIn il y a 7 ans maintenant. Et aujourd'hui, j'ai 33 000 followers sur LinkedIn, ce qui est pas mal. Ce qui permet de, quand je partage un message ou quand je cherche une information, j'ai tout de suite des gens de mon réseau qui me voient, qui me contactent et qui m'aident à trouver ces solutions. Donc aujourd'hui, j'ai mon réseau personnel, familial, j'ai le réseau client, j'ai le réseau, les réseaux sociaux. Donc j'ai pas mal de canaux que j'ai activés qui me permettent d'avoir accès à tout et n'importe quoi. Et je te donne une bêtise, mais tu vois, par exemple, je parlais avec un gars de mon équipe la semaine dernière qui me disait Jérém, je galère, j'ai envie d'avoir des places pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby en France, France-Nouvelle-Zélande. Il me dit c'est impossible, toutes les places sont à 1 000 euros, j'y arrive pas. Bon, je lui ai dit écoute, laisse-moi sonder mon réseau, je vais trouver des options pour y arriver. Et finalement, je me rends compte que mon petit frère, il connaît quelqu'un au placé dans la fédération, etc. Et en fait, ça va très vite. Il faut juste avoir conscience de son réseau et de ne pas se fixer de limites. Moi, je sais que tu peux me demander n'importe quoi, je peux y arriver. Demain, j'ai envie de rencontrer Emmanuel Macron, je sais que je peux le faire. Parce que, alors, c'est aucune prétention quand je dis ça. J'ai vraiment aucune prétention, mais j'ai tellement construit un réseau que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui le connaît. Et je suis sûr qu'avec ce que je fais, j'ai un moyen d'accéder à lui. Parce qu'il y a quelque chose qui peut l'intéresser ou quoi. Donc, en fait, je me dis que je n'ai pas de limite, si tu veux, pour rencontrer n'importe qui. Parce que j'ai travaillé mon réseau et parce que aussi j'ai conscience. J'ai conscience de ce réseau. Il y a souvent des gens qui ont un réseau mais qui n'en ont pas conscience. Tu vois, ils sont dans leur coin, ils montent leur business, ils le disent à personne. Non, il faut tout le temps se dire, ok, tu vois, je suis tout le temps en représentation. Quand je suis entrepreneur, je suis en représentation. Moi, tu me demandes à chaque fois, je vais à un anniversaire. Bon, t'es qui ? Je m'appelle Jérémy Vennaillan, je fais du marketing digital, des vidéos. Ah oui, je suis tes vidéos sur LinkedIn. Ah ouais, je te vois. Ah oui, je te connais. Ah bon, je te connais pas, raconte. Et en fait, je suis tout le temps en représentation de mon activité. Jérémy Vennaillan, c'est aussi Jérémy de Splasher. C'est la même personne. Je ne sens pas ma vie pro et ma vie perso. Je suis représentant de ma marque. Et donc tout ça, ça construit mon réseau et ça permet de créer du lien et de rencontrer constamment des nouvelles personnes et ouais. Surtout de ne pas me fixer de limites.
Ouais, non, mais t'as tout à fait raison et c'est super intéressant ce concept de se dire je suis constamment en représentation de mon entreprise. D'où l'importance de savoir qui l'on est, ce que l'on fait, d'avoir un pitch, d'avoir aussi une identité, parce que typiquement, toi, tu pourrais effectivement en parler des différents projets, que ce soit les quatre entités, mais aussi différents projets dans lesquels tu investis. Voilà, tu pourrais ne pas savoir, entre guillemets, te mettre une étiquette et dire « Ah, ouais, je fais ci, je fais ça, machin ». Non, Jérémy de Splasher. Et au sein de Splasher, on a effectivement différentes entités. On est le regroupement d'agences qui permet d'avoir le all-in-one de l'acquisition selon tes besoins, etc. Dis-moi ce dont tu as besoin en acquisition et je te trouverai des solutions. Et ça c'est hyper important. Tu fais bien de le souligner. Un autre élément, c'est que le réseau apporte justement des opportunités et des projets. Tu as pu investir dans certains projets. Tu as même fait... également un bel exit il y a de ça quelques temps à 20 millions d'euros, enfin un exit qui était valorisé 20 millions d'euros dans un projet dans lequel tu avais encore 20% des parts. Donc ça t'arrive aussi d'investir dans certains projets, de posséder un petit peu plus de parts que des investisseurs traditionnels, parce que du coup tu vas avoir une contribution peut-être opérationnelle ou une contribution stratégique plus poussée que simplement mettre des billes dedans. Par contre, tu vas sélectionner scrupuleusement justement selon ton expertise, selon ton réseau, selon ton feeling, selon différentes choses, ces différents projets dans lesquels tu vas t'investir soit en temps, soit en énergie, soit en argent. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont justement tu choisis, tu sélectionnes ces projets, ces opportunités et comment tu les gères ?
Bien sûr. Bah, écoute, le réseau m'amène des opportunités, les réseaux sociaux m'en amènent et le réseau que j'ai construit m'en amène aussi. Et donc, tu vois, quand on dit souvent, enfin, il y a une phrase qui m'a marqué, j'ai oublié son nom, ouais, de Christian Andiger. Christian ouais. Andiger, c'était le fondateur de Von Dutch, qui avait donné une interview à 20 minutes à l'époque, et il avait dit une phrase, le plus dur à faire, c'est le premier million, après, les autres, ils viennent tout seuls. Et en fait, c'est vrai que quand tu as un réseau et que tu as créé une activité qui marche, souvent, les opportunités, elles vont beaucoup plus facilement à toi. Et donc, en fait, c'est beaucoup moins dur au début de rencontrer des gens qu'aujourd'hui. Et les opportunités, elles viennent assez facilement et des super opportunités. Donc, c'est sûr qu'au bout d'un moment, quand tu as construit ce réseau et quand tu as réussi des trucs, bah, tu as des opportunités intéressantes. Donc, ça, c'est la petite parenthèse pour toujours parler du réseau. Et donc, lorsque ces projets me viennent à moi, et j'en ai pas mal, moi, j'ai une logique d'investissement qui est où, en fait, j'aime m'investir dans les projets. Je n'aime pas être simple investisseur et me dire, ok, j'ai mis, je sais pas, 50 000 balles ou 100 000 balles dans le truc, et puis merci, au revoir. Moi, je suis un curieux, je suis un passionné. Si j'investis, c'est parce que j'y crois, et donc je pense que je peux apporter quelque chose, et donc je vais m'impliquer. Je vais m'impliquer en temps, et donc je ne peux pas forcément faire 20, 30, 40 investissements, même si j'en ai les moyens. Je ne le fais pas parce qu'en fait, je ne suis pas dans une logique d'investissement, je suis dans une logique d'amusement, plus que de me dire, je vais gagner de l'argent avec. Tu vois, je gagne déjà super bien ma vie, je suis très heureux d'en être arrivé là, c'est largement suffisant pour moi. Si j'en gagne encore plus, tant mieux, mais ce sera parce que j'aime jouer, je suis un joueur et j'aime, et ça m'amuse, mais c'est pas pour l'argent particulièrement. Donc l'investissement pour moi, c'est plus un jeu. Je me dis, j'investis, mais comment je vais apprendre des choses, comment je vais en tirer parti, c'est quoi le challenge que je vais réussir à accomplir. Si je perds l'argent, je perds l'argent, mais de toute façon c'est en connaissance de cause, et surtout si je perds de l'argent, j'aurais été acteur du truc, c'est-à-dire que j'aurais mal fait un truc. Tu vois, c'est cette logique-là. Donc moi, investisseur, c'est plutôt investisseur-acteur. Et qui dit investisseur-acteur dit argent, mais également temps. Et donc, je le valorise bien. Souvent, j'essaie de prendre entre 10 et 20% des boîtes dans lesquelles j'investis. Donc, j'investis très, très early stage au début. Et souvent, j'aime bien investir. Il y a un critère, tu me parlais de ma prise de décision. Moi, j'aime bien investir dans les boîtes dont je connais les patrons. Et on en revient encore au réseau. Parce que pour moi, le plus important dans un business, même avant le projet lui-même, et je vais te donner un exemple de fou furieux, c'est le mec qui le porte. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un marché où, je te le disais tout à l'heure, tout bouge très vite. Mmh. Un projet peut être obsolète du jour au lendemain. Et donc, si j'investis dans une personne que je connais, en qui j'ai confiance, et je sais qu'elle ne lâchera jamais, peu importe si elle échoue, qu'elle va se relancer, que son activité va repartir, qu'elle va pivoter, j'ai aucune peur. Parce qu'en fait, j'investis sur un gars et je sais qu'il ne peut pas jouer. C'est, C'est Robocop, le mec. Donc, il va tomber, mais il va se relever. Et son truc, il pourra jamais ne pas réussir, tu vois. Et donc, en fait, dans toutes les boîtes dans lesquelles j'ai investi, je connaissais souvent les fondateurs. Il y a une boîte dans laquelle j'ai investi où je ne connaissais pas les fondateurs. J'ai investi sur le CV. C'était des anciens de Boston Consulting Group qui avaient fait des très grosses études. Et ils ont déposé la boîte au bout de 3-4 mois. Ils ont abandonné à la première législation qui n'était pas favorable. Donc, le seul business que j'ai fait où j'ai dérogé à ma règle d'investissement, ça a déposé très, très vite. Je me suis basé sur le CV et ça ne marchait pas du tout. Sinon, j'ai fait un investissement où je disais tout à l'heure qui est une boîte qui s'appelle Casper, qui est une boîte qui fait qui est un logiciel SaaS B2B qui permet de trouver le contact de n'importe qui, mail, téléphone. Donc, c'est un logiciel de prospection B2B. Et en fait, si tu veux, le fondateur Alan Benguigui, c'est le cousin de mon associé. Donc déjà, la logique d'investissement respectée, j'ai investi dans les boîtes dans lesquelles je connais le fondateur, je sais qui c'est, je sais qu'il a un bon fond, qui ne m'arnaquera jamais, qui sera toujours dans une logique de partage, qu'il est passionné par ce qu'il fait, je le connais par cœur. Et il a monté une boîte, on avait investi, on avait départ à l'époque, et cette boîte-là, au début, elle a pas réussi, elle n'a pas trouvé son marché. Et puis, il était à deux doigts de la faillite, et il me dit, écoute, Jérém, j'ai pivoté, j'ai un nouveau produit, mais j'ai plus de cash. Il me manque 30 000 euros là, pour le lancer. Est-ce que tu veux pas voir avec Franck, vous investissez, vous remontez un peu au capital et on teste ce nouveau produit. Moi, je lui dis, OK, banco. Donc, il lance le produit. Moi, je fais une vidéo LinkedIn et c'est ma première vidéo LinkedIn où je présente en fait ce logiciel SaaS. Elle a fait 300 000 ou 400 000 vues. Cette vidéo, elle a explosé. Et Casper a gagné 8 000 inscrits le premier jour. En B2B, c'était énorme. Puis après, l'application a été tellement bonne qu'elle a explosé en organique et le truc est devenu une boîte à 4 millions d'ARR et on l'a revendu l'année dernière 20 millions d'euros à une boîte anglaise qui s'appelle Cognizium. Donc c'était un super exit et tu vois ce qui est dingue avec ce projet, c'est que le fondateur il avait déposé en fait. Si j'avais pas été là, j'avais été simple investisseur, je le connaissais pas, j'aurais jamais remis au pot. J'avais déjà mis 70 000 balles je crois à l'époque, il fallait remettre encore 30 ou 40, donc on aurait jamais remis, ça se serait arrêté là. Mais en fait, je savais que le mec n'allait jamais abandonner. Je savais qu'il était bon, je savais qui c'était. Et donc, j'étais convaincu que c'était la bonne personne pour monter un projet. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Lorsque j'investis dans une boîte, je suis toujours dans cette logique de dire, OK, est-ce que je connais le fondateur? Est-ce que je sais où il veut aller? Est-ce que je sais ce qu'il a fait? Est-ce qu'il aura envie de me décevoir ou pas? Tu vois, souvent, il y a des mecs avec qui je m'investis. Ils ont plus peur de me décevoir en mode, il a investi chez moi. Donc, en fait, j'ai cette logique-là. J'ai ce lien qui est créé, ce réseau qui est créé. Où, en fait, on est liés. Donc, lorsque j'investis, pour moi, ce ne sont pas des investissements risqués parce que je connais les personnes et du coup, c'est la logique première. Bien évidemment, je regarde quand même le produit après et si je trouve que le produit n'est pas cohérent du tout, je lui dis, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je n'investis pas parce que pour moi, le critère numéro 1, c'est la personne. Par contre, je vais lui dire, attention, tu pars dans la mauvaise direction, ça, ton produit n'est pas bon, je pense qu'il faudrait faire plus comme ça que comme ci, tu vois, et je me lance. Mais du coup, ça fait très peu d'investissements depuis une dizaine d'années. J'ai investi dans 6-7 boîtes, grand max. Tu vois, donc c'est une logique plutôt cool d'investissement et c'est des tickets qui vont de 20 000 balles 25 000 balles à 50 000 grand maximum, donc ça reste des tickets raisonnables au vu des exits que j'ai réalisés.
Complètement, c'est super intéressant ta vision et effectivement la plupart des grands investisseurs le disent et le mettent en exergue. Le premier des critères, c'est les individus, c'est qui et au board, c'est qui gère le projet et tu as raison justement de mettre ça en évidence. Ça fait presque une heure qu'on est ensemble. J'ai envie et je me pose la question parce qu'on ressent chez toi vraiment une flamme, une énergie, une passion. On a compris au départ de cet épisode ce déclic du Jérémy qui était enfant et qui veut prouver, mais tout enfant a des rêves. Est-ce que tu fais tout ça pour un rêve, pour une finalité en particulier? Pourquoi tu fais tout ça?
Écoute, je fais tout ça pour m'amuser parce que il faut donner un sens à sa vie et que la vie elle est courte. Je vois autour de moi j'ai appris encore récemment des nouvelles pas très réjouissantes sur des entrepreneurs qui se sentent pas bien, qui mettent fin à leur jour, qui sont voilà, c'est des trucs dans mon réseau qui peuvent arriver. La vie passe très vite et en fait il faut s'amuser. On est là, on est sur Terre un court moment. Il faut kiffer, il faut le vivre à fond. Faut pas avoir de peur, faut pas se dire à 90 piges au moment de mourir, bon finalement je regrette si ça. J'ai envie de rien regretter, donc j'ai envie de garder cette passion, de m'amuser principalement. Et donc qui dit m'amuser dit potentiellement monter des projets qui m'amuseront toujours. Tu vois, j'ai un rêve d'ici quelques années, ce serait de racheter un club de football.
Okay.
Parce que je suis passionné par le football. Et je pense que ce sera mon prochain projet après Splasher. De racheter, j'ai pas d'horizon, hein, mais de racheter un club parce que moi je suis fan, je suis parisien, né à Paris, j'ai grandi à Paris. J'étais fan du PSG quand j'étais petit et depuis quelques années, on va dire depuis 5-6 ans, j'aime plus mon club, le club de ma ville, le Paris Saint-Germain, parce qu'il a été racheté par le Qatar, parce que il appartient plus aux Parisiens, parce que les joueurs qui y vivent et qui ont été achetés n'ont aucun lien avec Paris, se comportent comme des mercenaires et il n'y a plus cette âme de foot. Et moi je pense que dans tout sport, on doit arriver à garder l'âme. On y amène trop d'argent. Pour moi, le sport et l'argent, alors c'est sûr que c'est très lié, mais en fait, ce qui est dommage dans le football, c'est que l'argent a fait perdre notamment à beaucoup de clubs leur âme. Et j'aimerais bien monter un club avec une vision où, si tu veux, dans ce club-là, dans ce club de Paris, on aurait uniquement des Parisiens qui y jouent, des joueurs qui sont nés à Paris ou qui ont été formés à Paris ou en Île-de-France. Donc, ils sont dans l'environnement, qui aiment leur ville et qui défendent les couleurs de leur ville. Et je pense que le football devrait être comme ça dans tous les pays du monde, quoi. T'es né à Manchester, bah tu joues pour Manchester ou alors t'as été formé à Manchester et tu joues pour le club de Manchester de la même manière pour Paris, parce que ça permet de défendre les couleurs du pays que tu supportes. Ça permet de valoriser aussi et d'être ambassadeur de ton pays, un peu ce qui se passe au niveau des nations. Ça se passe pas au niveau des clubs. Et moi, je regrette un peu ça. En tout cas, je ne me retrouve pas dans le Paris Saint-Germain aujourd'hui, dans ce qui est fait. Donc, j'aimerais bien plus tard acheter un club qui est plutôt bas de classement en Ile-de-France et pouvoir le monter un jour et le hisser. Je n'ai pas peur de le dire, hein, parce qu'il n'y a pas de limite dans la vie. Tout peut arriver. Et si je fais un club comme ça, tu vas me prendre pour un fou, hein, mais moi, j'ai l'ambition de gagner la Ligue des Champions. Et tu sais que quand je regarde le PSG jouer et je regarde le PSG en finale de la Ligue des Champions, j'ai un petit passement au cœur parce que je me dis qu'ils peuvent y arriver avant moi. Donc en écoutant ce podcast, les gens ils vont se dire mais c'est un malade, le mec il veut racheter un club, il veut finir gagner avec des champions alors que le PSG n'y arrive pas avec des milliards. Mais je suis comme ça, quand je fais un truc je le fais à fond et j'y crois. Alors après, est-ce que j'y arriverai, est-ce que j'y arriverai pas, je sais pas, mais au moins je vise Vénus. J'arriverai peut-être sur la Lune, tu vois, mais je vise très très loin. Mon but c'est d'aller très très haut, donc quand je fais quelque chose je veux le faire à fond. Et donc c'est mon ambition, c'est de pouvoir racheter un club de foot avec ces logiques locales, avec ces joueurs formés au club pour créer une âme et également quand même amener ce côté entrepreneuriat et tout ce que j'ai appris toutes ces années, parce que j'aimerais créer une marque autour, j'aimerais potentiellement tu vois, faire des choses qui sont intéressantes, qui ne sont pas trop dans les clubs de foot, notamment pouvoir créer une émission au sein du club, une sorte de télé-réalité où en fait tout est filmé de la plus basse division jusqu'à la Ligue 1, quel est le parcours d'un club, comment tu grossis, comment tu montes un club de zéro. Et créer du contenu autour de ça, un peu comme une émission de Netflix que je pourrais après vendre aux plateformes, tu vois, après une vidéo ou à Netflix, que ça pourrait intéresser d'ici quelques années quand le club aura monté. J'ai envie d'avoir cette vision-là, un peu média. J'ai envie également de pouvoir construire une marque autour du club, un équipementier. Je veux pas avoir que mes joueurs portent les couleurs de Nike. Je veux que mes joueurs portent les couleurs de mon équipementier, de ma marque, parce que je sais que un club c'est un gouffre financier et qu'il va falloir trouver des nouvelles sources de revenus à côté. Et pendant des années, bah, j'ai travaillé avec des marques, je connais des marques, j'ai un réseau pour ça. Et donc, j'aimerais, tu vois, utiliser tout mon réseau, tout mettre à profit pour pouvoir faire vivre ce club. Également, tout ce qui est gamification avec la logique de NFT, j'aimerais pourquoi pas faire en sorte que demain, tokeniser mon club et faire en sorte que des investisseurs puissent être actionnaires du club, d'être des socios comme un peu à Barcelone et voter la décision, la vie du club avec moi. Donc, c'est toutes ces choses-là, c'est toutes ces logiques. Tout ce que j'ai appris toutes ces années, je vais essayer de les maximiser pour transformer mon club. Et en faire quelque chose qui va m'amuser encore pendant de longues années. Voilà un peu l'idée que je me fais dans ces prochaines années.
Magnifique. Je ne te prends pas du tout pour un fou, parce que je sais que tu as la capacité de réaliser cette vision. Je dirais plutôt que c'est audacieux et qu'il faut oser, mais la preuve en est sur ces 10-12 dernières années, tu as prouvé que tu en étais capable. Donc, je pense que tu vas continuer à le faire et surtout, ça me permet de rebondir parfaitement sur la question suivante. Je pense que voilà, tu parlais notamment du Web3, de la communauté. Ça va permettre peut-être à donner le pouvoir à la communauté, tokeniser le club, permettre de lever des fonds grâce à ça. Et cette communauté, être en capacité de créer, justement, fédérer une audience, c'est aussi une de tes expertises. C'est mon avant-dernière question pour cet épisode d'ailleurs, qui peut découler sur deux, trois autres questions et des échanges, parce que ça peut être intéressant, mais tu as vraiment ce truc de craquer le code. Alors, je dis tu as, mais c'est vous avez au sein de vos équipes, mais que ce soit avec notamment TikTok, par exemple, format court, où j'ai appris que même ton papa était parmi les plus gros influenceurs TikTok en France et le docteur le plus connu de TikTok grâce justement de France grâce à TikTok. Donc, c'est incroyable, docteur TikTok. Je trouvais ça génial quand j'ai vu ce post LinkedIn. Je sais que vous avez fait monter aussi de nombreuses personnes au sein de vos structures. Pour créer limite vos propres influenceurs, c'est du génie. Pour ça, il faut maîtriser les codes parce que finalement, voilà, quand tu connais la recette, bah, tu l'appliques à toi-même plutôt que juste vendre la recette. Là, tu reviens sur LinkedIn, ça fait 7 ans que tu y es, mais tu reviens sur LinkedIn, tes posts, ils explosent. Fais des posts à 200, 300, 500, 1200 likes en quelques jours, quelques heures. C'est juste dingue. Donc franchement, on peut dire que tu fais partie de ces personnes qui maîtrisent les codes des réseaux sociaux en général. De par ton expérience, de par cette passion qui t'anime, est-ce que tu aurais quelques tips à partager à celles et ceux qui nous écoutent ? Donc, je sais que c'est difficile parce que les codes changent à chaque fois, les conseils ne sont pas intemporels et qu'en plus, un conseil qui s'appliquerait sur TikTok ne s'appliquerait pas forcément sur LinkedIn. Mais est-ce que tu as 2-3 tips, 2-3 trucs que tu as absolument envie de partager à l'égard justement des réseaux sociaux, des bonnes pratiques pour celles et ceux qui veulent vraiment cartonner sur les réseaux ?
Yes, écoute, avec plaisir. Bah, en fait, c'est hyper simple. C'est-à-dire, souvent, les gens, ils pensent qu'il y a des règles, des algos, des trucs hyper complexes. Moi, en fait, j'essaie de réfléchir et de me dire... Et tous les réseaux sociaux fonctionnent de la même manière. Ça qu'il faut comprendre, il y a des logiques communes. Alors, il y a des petites particularités, mais globalement, un réseau social, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut maximiser le temps passé sur sa plateforme. C'est-à-dire qu'il veut que ses users restent le plus longtemps sur sa plateforme. Donc, si ton contenu, il a vocation à faire partir les gens, il ne sera pas poussé. Si par contre ton contenu, il a vocation à faire rester les gens, il sera poussé. C'est aussi simple que ça. C'est juste ça. Après, il y a des logiques de format, mais en réalité, et après, ça vient sur des logiques qui sont assez simples. Aujourd'hui, LinkedIn, TikTok, Instagram, comment ils font rester les gens sur leur plateforme ? Avec du contenu. Donc, la priorité, c'est que des créateurs produisent du contenu. Et encore mieux, si tu produis du contenu tous les jours, bah l'algo il est très content puisque tu vas lui enlever une épine du pied. Il a besoin de contenu pour faire garder les users sur sa plateforme. Donc à partir du moment où tu réussis ça, tu es régulier dans la création de contenu, l'algo va t'aimer. Et au bout d'un moment, tu seras récompensé, tu seras poussé. Donc la quantité, la régularité, c'est ce qui est le plus important. Vient ensuite le deuxième élément, qui est la qualité du contenu. Bien évidemment, le contenu, il doit être qualitatif, c'est-à-dire que tu dois apporter de la valeur, parce que potentiellement, si ton contenu est nul à chier, les gens ne vont pas rester dessus. Ils vont avoir tendance à se dire, bah, si je découvre beaucoup d'autres contenus qui sont nuls, eh ben, je vais quitter la plateforme. Donc, il faut que ton contenu soit qualitatif. Et pour ça, il y a plusieurs codes. Il y a l'accroche. Comment tu arrives à capter l'attention d'un internaute pour qu'il s'arrête sur ton contenu ? Parce que les premières secondes sont importantes. Il y a le contenu en lui-même, ce que tu vas apporter comme valeur, ce que tu vas générer comme émotion. Donc tout ça, c'est des choses qui dépendent de tes compétences, de ton expertise. Mais globalement, si je dois m'arrêter sur quelque chose sur le contenu, mais c'est quand même l'accroche qui est un élément très important puisque les deux premières secondes sont un moment clé puisque l'attention d'un internaute lorsqu'il consomme un contenu, c'est 2 secondes. Passé 2 secondes, il décide s'il swipe ou pas, s'il regarde ou pas. Donc, tu as 2 secondes pour attirer son attention. 2 secondes, c'est très court, mais c'est aussi énorme. En 2 secondes, tu dois apporter de la valeur. Donc, de la même manière, lorsque tu construis un contenu sur les réseaux, si au début, tu commences ta vidéo par « Bonjour, je m'appelle Alec et je suis… » Le mec, il skip, il s'en fout. Par contre, si tu commences par « J'ai découvert une technique secrète qui… » Eh ben là, le mec, il se dit « Putain, c'est quoi la technique secrète ?»« Qui permet aux entrepreneurs de réussir en moins de… » Et en fait, toutes ces choses-là, c'est important. Et après, tu dis, bon, j'ai trouvé la technique secrète qui permet aux entrepreneurs de faire ci, faire ça. Salut, je m'appelle Alec Henry, ça fait 20 ans que j'en... Donc, en fait, si tu veux, il y a des codes dans la façon de créer le contenu. Et pour comprendre ces codes, rien de mieux que d'observer les autres. Moi, ce que je fais sur LinkedIn, je regarde, j'ai 4-5 noms que je tape, je regarde tous les mecs qui créent du bon contenu. Tous les mecs qui viralisent et qui font du reach, de l'engagement sur leur poste. Et je copie la façon dont ils créent le contenu parce que c'est ce que la plateforme aime et ce que les gens aiment. Et les gens interagissent avec ces contenus-là. Donc, c'est important aussi de bien analyser. Donc, voilà, la logique principale, c'est de se dire, pensez avant toute chose qu'il faut garder les gens sur la plateforme le plus longtemps. Donc, il faut que les gens soient attirés par votre contenu et qu'il y ait une accroche forte. faut que les gens restent sur votre contenu, qu'ils aient pas envie de swiper. Donc le contenu soit qualitatif, que vous les gardiez en haleine tout le long du contenu et que vous leur apportiez de la valeur. Qu'ils aient tendance à revenir sur votre contenu, voire le partager. Donc ça, c'est intéressant. Et le partage est un élément hyper important parce que souvent, le partage, notamment sur TikTok, il est possible de partager un contenu sur WhatsApp ou sur d'autres réseaux sociaux. Et ben ça, c'est hyper bien vu par une plateforme parce que si TikTok voit que toi, tu crées des contenus qui sont beaucoup partagés en externe, qui viralisent beaucoup, et ben tu ramènes des nouveaux users sur TikTok. Donc, en plus de garder les gens et de l'attention, tu leur permets de faire de l'acquisition de trafic. Et donc, c'est le nerf de la guerre, c'est les users et le temps passé. Donc, garde ces indicateurs, pense à ces indicateurs qui sont pour moi les plus importants. Analyse ce qui est fait par les autres, analyse ce qui est fait par les meilleurs créateurs de contenu sur la plateforme, essaye de copier et d'adapter les codes à ton contenu.
Ouais, c'est super intéressant. Et un autre point aussi, c'est que tu sais, on dit souvent que tu as une sorte de edge sur la concurrence à certains endroits, et aussi il faut être focus dans ton business sur les tâches à inflexion et seules celles que tu peux justement faire que toi-même lorsqu'il s'agit de déléguer, etc. Aujourd'hui, bon bah, c'est clair, j'imagine, quand tu fais des shorts, des TikTok, des choses comme ça, ton visage, ce n'est pas encore l'IA dont tu as parlé, ça reste toi qui es derrière l'écran. Mais peut-être que le montage, en effet, ce n'est pas toi qui le fais, c'est certain, c'est ton équipe. La publication, c'est peut-être ton équipe, etc. Le community management, c'est dans une certaine mesure, j'imagine aussi, ton équipe sur certains des réseaux. Mais est-ce que les idées de contenu, est-ce que le script ou est-ce que, par exemple, tes posts LinkedIn, c'est encore toi aujourd'hui qui les écris? Certains, tous, la plupart, peu importe, c'est encore toi qui les écris ou c'est aussi quelque chose au niveau des scripts, des idées de contenu que tu as délégué?
Non, si tu veux, moi, je fais tout moi. Je fais tout moi parce que je pars du principe que le contenu est important. Alors, ce n'est pas la priorité. Hein. C'est-à-dire, je pourrais externaliser. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose d'externaliser parce que je t'ai dit que les premiers critères, c'était la quantité. Et donc, c'est dur quand tu es entrepreneur de faire de la quantité parce que tu n'as pas tout le temps. Donc, c'est bien de produire en quantité. Le deuxième indicateur, c'est la qualité, mais la qualité, elle peut être écrite par un autre ou elle peut être faite par un autre. Après, c'est sûr que la meilleure qualité, c'est toi qui la partageras. Et donc, je pense que tu vois, si tu fais écrire tes posts par un ghostwriter ou quelqu'un qui écrit à ta place sur LinkedIn notamment, ça ne peut jamais être aussi bien que toi. Alors certes, il va te solliciter un peu, mais c'est toi l'entrepreneur, c'est toi le meilleur. Lui, il écrit pour des entrepreneurs. C'est un peu, j'écoutais une vidéo d'Oussama Hamar récemment qui parlait des coachs. Tu vois, j'ai trouvé ça bien. Je fais le parallèle, tu vois, lui disait que lui c'est un très bon coach d'entrepreneur. Après, c'est peut-être pas le meilleur entrepreneur et le porteur de projet parce que il a pas fait des boîtes qui ont explosé, mais par contre c'était un très bon coach d'entrepreneur. Il coachait les gens à devenir des excellents entrepreneurs, ce qui est vrai. Et tu vois, c'est un peu la même chose. Pour moi, c'est un peu dans le sens inverse sur l'écriture. C'est que tu vois, j'ai envie de faire le parallèle avec ça, mais c'est vrai que c'est dur lorsque tu sous-traites le contenu d'être aussi bon que le vrai créateur lui-même. Pour moi, le mec qui va savoir écrire, qui va savoir piloter, qui va savoir créer du bon contenu et qui a monté des business, qui a coaché d'entrepreneurs, c'est toi. Donc, c'est toi qui pourras te délivrer les meilleurs conseils. Voilà. Maintenant, si effectivement le temps est compté et que voilà, on a d'autres sujets et de l'activité business, il est possible de sous-traiter là, une partie de la création, notamment sur LinkedIn, ça se fait beaucoup et ça permet quand même d'avoir des très bons résultats.
Ouais, je te rejoins. D'ailleurs, ça me fait poser une question. On ne l'a pas évoqué, mais… Est-ce que tu peux nous citer rapidement 2-3 gros clients que vous accompagnez, grosses marques
Yes, écoute, on accompagne par exemple Galerie Lafayette sur la gestion de leur compte TikTok, la création de leur contenu sur la plateforme, mais également tout leur contenu publicitaire en ads. Ouais. Donc ça, c'est un client avec qui on vend des centaines de vidéos à l'année, avec qui on a une très très bonne relation. On bosse aussi par exemple avec LinkedIn France, on gère leur chaîne TikTok. Donc c'est aussi un canal qui est intéressant. On bosse avec Sandro, le groupe Sandro, dans la publicité programmatique, tout ce qui est achat média, téléprogrammatique, tout ça. On a bossé même avec TikTok sur de la création de contenu parce qu'à l'époque, ils faisaient des vidéos pour aller acquérir des users lors du lancement. Et donc, on a fait des vidéos tournées pour TikTok. On a organisé 3 tournages à l'époque. Donc, on a quand même une vraie expertise. On a plus de 600 clients maintenant, beaucoup de grands comptes, des startups qui ont levé des fonds. Et voilà, donc c'est un peu nos typologies de clients. On bosse avec… pour les citer un peu, Pfizer, Unibet, la Française des Jeux, Kiabi, Rakuten, etc. Donc énormément de marques, de grands groupes sur de la création de contenu, sur tous ces sujets d'acquisition.
Ouais, et justement, ça, je te fais dire ces noms parce que ça me fait poser une question et casser un mythe. Beaucoup de gens disent « Ah non, mais si je montre mon visage et que je crée du contenu et que du coup, je me mets en avant sans forcément avoir des millions et des millions de vues et que je parais pour le mec qui donne des conseils machin aux débutants ou autres, les grands clients ne vont pas venir toquer à ma porte et ne vont pas me prendre au sérieux. » Et c'est pour ça que je te pose cette question, parce qu'aujourd'hui, il y a le Jérém, CEO de Splasher, qui gère ses équipes, qui gère ses business à merveille, qui investit, qui est le visionnaire, qui est le passionné, qui charbonne, qui bosse 10, 12, 15 heures par jour s'il le faut, qui est aussi présent sur les réseaux, qui aussi donne des conseils à ceux qui veulent bien l'entendre sur les réseaux, qui fait ça sous format vidéo, qui fait ça sous format LinkedIn, et qui pourtant close des deals à 5, 6 chiffres avec des grands groupes, avec des boîtes cotées, avec des gens qui rigolent vraiment pas du tout et qui parlent pas chinois niveau business. Donc, ce que je veux dire à celles et ceux qui nous écoutent, c'est que ne venez pas créer des croyances limitantes là où il n'y en a pas. Communiquez aujourd'hui votre message au plus grand nombre. Utilisez les leviers de communication qui sont à notre disposition. Se refuser ça serait une grave erreur selon moi. Qui ai moi-même développé un fort personal branding ces dernières années et qui l'exploite mais à foison au sein de toutes mes activités. Pareil pour toi, Jérém, en plus des corporate branding que tu as su créer avec ton groupe. Donc ouais, c'était une petite parenthèse importante justement à mettre en lumière.
Je te rejoins à 1000%, je te rejoins à 1000%, Alex, c'est prenez la parole. Parce que créer du contenu, ça permet d'attirer toute typologie de clients et bien évidemment des grands comptes. Et moi, je vais te donner un truc qui est intéressant, c'est que souvent sur les réseaux, j'essaie de donner un maximum de conseils aux entrepreneurs pour se lancer. J'essaie de donner un maximum de conseils aux gens sur le digital, des conseils vraiment, des secrets de fabrication. Parce que je pars du principe que même si mes concurrents vont voir le message et vont me copier, même si des petits acteurs vont se dire « Ah bah tiens, il m'a appris comment le faire, je vais le faire moi-même », je pars du principe que les grands groupes ou les gros directeurs marketing, ils vont se dire « Putain, le mec est smart, il donne des bons conseils et tout. C'est le référent sur le sujet. Donc, si un jour, j'ai un sujet qui vient dans ma boîte, c'est lui que j'appelle. » Et c'est ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que les petits ne m'appellent pas, mais de toute façon, je m'en fous parce que les petits, c'est un nid en merde et finalement, ils n'ont pas beaucoup d'argent et ils vont prendre du temps et de l'énergie. Donc, tant mieux qu'ils ne m'appellent pas et tant mieux que je devienne leur gourou et que je leur donne des conseils. Et ça me fait du reach sur les réseaux et tu vois, ils me permettent de gagner en visibilité. Et moi, je reste le référent. En même temps, les gros, ils vont pas le faire eux-mêmes. Donc les gros, ils m'appellent au contraire. Les gros, ils disent « Putain, c'est le mec que je vois partout sur les réseaux qui donne des conseils, c'est lui les référents sur le sujet. » Donc, je travaille avec. C'est un peu ça l'idée. Et donc, c'est vraiment un booster pour aller chercher du gros business.
Complètement d'accord, complètement d'accord. Dernière question pour toi, Jérémy, et merci d'ailleurs pour cet excellent moment passé ensemble. Vraiment, j'ai trouvé cet échange extrêmement intéressant et la valeur que tu as délivrée, elle est énorme, faut le dire. Donc, si ceux qui nous écoutent d'ailleurs ont eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode, faites-le nous savoir avec le partage, faites-en un post LinkedIn, mettez 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles Spotify, l'avis sur Apple Podcast, c'est tellement important ça. Et
on a un défi, Alex, il faut que je dépasse Oussama Amar sur la vidéo YouTube.
Ah ouais, c'est vrai. 150 000 écoutes.
150 000. Bon, si je viens à Dubaï et que on fait une vidéo live, je veux le dépasser. Hein.
C'est bon, on fait ça. Deal. Parfait. Non, mais sérieusement, c'est un excellent épisode et j'ai hâte, dis-toi, j'ai hâte carrément de le sortir parce que c'est l'objectif même du déclic, c'est justement de partager à chaque fois des épisodes de plus en plus lourds, de plus en plus fous et je pense que cet épisode va en inspirer plus d'un et plus d'une. Merci pour ça. Dernière question que je pose à chaque fois aux personnes que j'ai sur le déclic, c'est parmi toute la valeur que tu as pu délivrer dans cet épisode, est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas encore évoqué, que tu as envie de nous partager et qui a limite dans ta vie créé une transformation limite identitaire, comme par exemple le déclic que tu as eu lorsque ton papa parlait à ton professeur, que tu as envie de nous partager? Ça peut être pro, ça peut être perso, ça peut être une situation, une citation, une frustration, une réussite, un échec, peu importe, tu as vraiment carte blanche, la parole est à toi pour ce mot de la fin.
Yes. Alors, le mot de la fin, moi, c'est une phrase, mais qui me concerne moi, qui concerne peut-être moins tout le monde. C'est une phrase que j'ai appris en travaillant avec mon associé, qui est « À la rue et vers l'or, ceux qui s'enrichissent, ce sont les vendeurs de pelles et de pioches. » Et c'est une phrase qui nous décrit bien, puisque nous, on est des vendeurs avec mon associé de pelles et de pioches. On aide les entrepreneurs à trouver la pépite d'or, à réussir dans le business. On aide les marques à communiquer. Donc, on leur fournit les outils de communication. Et c'est vrai que toutes les marques, tous les annonceurs cherchent la pépite, cherchent à devenir riches. Et c'est vrai que quand tu es un vendeur de paillettes pioches, tu t'enrichis aussi beaucoup. De temps en temps, tu as une envie, toi aussi, de te mettre à chercher la pépite. Mais souvent, tu es rappelé à l'ordre. Tu te dis non, je fais un métier de service, je reste dans le service. Et c'est en fait, c'est ça qui m'a conduit toutes ces années à monter des agences, à monter des boîtes de services, à rester le vendeur de paillettes pioches, donc être bon dans ce que je fais. Et je me suis enrichi de cette façon-là. J'aurais pu effectivement, tu vois, avoir un déclic et me dire, ça y est, je vais monter une boîte, je vais la vendre des milliards, parce que je voyais des clients autour de moi qui levaient des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Et donc ça a donné envie. Mais j'ai su rester stable dans ma logique de création d'entreprise et donc de rester le vendeur de paillettes pioches. Et voilà, c'était pas facile. C'est toujours pas facile au quotidien parce que des fois on a des envies, mais c'est ce qui me caractérise au quotidien. Et donc voilà un peu si tu veux la citation de la fin qui pourrait me caractériser.
Merci Jérémy, c'était vraiment un plaisir. Merci pour cet épisode. Et ouais, on a vraiment de A à Z eu une masterclass. Merci pour ça.
Merci mon pote Enbon, merci encore.